Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le mois dernier, après plusieurs années de fermeture, le célèbre zoo de Vincennes a rouvert ses portes au public. Franck Ferrand profite pour retracer l'histoire des parcs zoologiques. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai invité Michel Louis à nous rejoindre. Il est le fondateur du parc d'Amnéville en Moselle. Et Michel Louis, rappelez-vous, était venu nous parler il y a longtemps maintenant de ces extraordinaires lions de Tsavo, ces lions mangeurs d'hommes qui ont fait, j'allais dire, quasiment la notoriété et le succès de cette émission. Vous allez voir qu'il connaît par cœur l'histoire des zoos. Auparavant, puisque ce parc zoologique de Paris puise ses racines dans l'exposition coloniale de 1931, eh bien je vais revenir pour ma part sur cet événement, bien entendu.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Marine sur le site internet d'Europe 1 à propos de l'origine des ministères régaliens.
Oui, c'est effectivement un terme à la mode ces temps-ci. Pour le moment, nous faisons un petit saut de quelques 8 décennies en arrière. Je vous propose d'aller faire un tour à l'expo coloniale.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ce fut un des points forts de l'exposition coloniale de 1931 dans l'Est de Paris, l'ouverture au bois de Vincennes d'un zoo temporaire confié à Henri Tétart, où le grand public allait venir contempler ce qui peut-être était la richesse la plus spectaculaire de l'Empire français, sa faune. Le succès des girafes, des éléphants, des lions, des autruches, pour la première fois présenté au public français dans des espaces ouverts, sans cages ni barreaux, ce succès est tel que l'on va décider dans la foulée de l'expo de créer, tout près de là, un parc zoologique inauguré au printemps 1934, il y a donc 80 ans. L'exposition coloniale, voilà sans doute un des événements les plus paradoxaux de notre histoire contemporaine. Son immense succès nous paraît aujourd'hui presque difficile à comprendre, tout simplement parce que nous avons oublié cet état d'esprit de communion d'un peuple avec son empire colonial. Pendant 6 mois, tout ou presque toutes les tensions politiques, sociales, économiques ont été balayées par cette espèce de raz-de-marée populaire sur l'Est parisien. Nous avons bien gardé quelques images de la gigantesque kermesse dans un petit coin de notre mémoire, mais par un effet psychologique assez extraordinaire, je dirais que pour l'essentiel, tout ça est passé à la trappe, parti dans le magasin des splendeurs oubliées de l'histoire. Concrètement, l'exposition coloniale s'est tenue du 6 mai au 15 novembre 1931 à la Porte Dorée à Paris, sur le site du bois de Vincennes donc, et près de 8 millions de visiteurs s'y sont succédés. Alors, pour tout vous dire, 8 millions c'est le chiffre total des entrées. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'un grand nombre de visiteurs avaient visité l'exposition 3, 4, même 5 fois. Donc en nombre de personnes, ça devait être un petit peu moins que ça. Le slogan de l'expo, c'était « Le tour du monde en un jour » et en réalité, chaque visiteur va acheter entre 2 et 4 billets. Le prix d'entrée, c'est 3 francs, ce qui, pour l'époque, est un prix relativement important. Alors, à l'époque, le principal empire colonial, c'est celui du Royaume-Uni, vous savez, avec les colonies blanches, comme on les appelle, du Canada, d'Australie, etc., qui accèdent progressivement à l'indépendance, et puis les autres colonies, centrées sur l'empire des Indes. La France possède le deuxième empire colonial, principalement en Afrique, au Maghreb, en Afrique occidentale essentiellement, et puis bien sûr en Indochine. Pour comprendre le succès de l'expo coloniale, il faut se remettre dans l'état d'esprit de cette époque. Ernest Renan, dans La réforme intellectuelle et morale, donc là il faut remonter 40 ans plus tôt, en 1871, Ernest Renan disait, je le cite, « La colonisation en grand est une nécessité politique de tout premier ordre. Une nation qui ne colonise pas est vouée à la guerre du riche et du pauvre. » Et le grand politologue Paul Leroy Beaulieu, quelques années plus tard, a confirmé, je le cite, « La colonisation est pour la France une question de vie ou de mort. Ou la France devient une puissance africaine, ou elle ne sera dans un siècle ou deux qu'une puissance européenne secondaire. Elle comptera dans le monde à peu près autant que la Roumanie, disait Paul Leroy Beaulieu, avec ce qu'on a très envie de ne pas considérer comme un certain esprit de préscience. Cette idée colonialiste, qui au départ est plutôt une idée de gauche, qui s'appuie sur des idées d'émancipation des peuples, de partage du progrès, etc., cette idée, elle avait peu à peu gagné presque tout le spectre politique. Alors, il existe bien quelques discours contre la colonisation, mais à l'époque, ils restent isolés. Voici ce que disait par exemple Clémenceau en 1885, je le cite, « N'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique et matérielle sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence l'hypocrisie. » Voilà ce que disait Clémenceau. Mais avouons que c'est à l'époque un discours ultra minoritaire. Cette exposition de 1931, donc, elle ne surgit pas du tout de nulle part. Elle a été préparée par toute une série de manifestations où l'on a pris l'habitude d'exposer les produits venus tout droit des colonies, des indigènes. On reconstitue même parfois des villages. Il y a eu l'exposition coloniale de Rouen en 1896. Le public ne se lassant pas, l'exemple était bon à suivre, dira la plaquette qui présente l'expo de 1931. Celle de Marseille en 1906 et en 1922. Vous voyez qu'on était jusque-là dans des ports coloniaux. Le but était notamment de donner aux jeunes Français l'envie de sortir de métropole et d'aller s'installer quelque part dans l'Empire. En 1907, déjà au bois de Boulogne, on avait reconstitué 5 villages. Un village d'Indochine, un autre de Madagascar, un troisième du Congo, un autre du Soudan. Il y en avait aussi d'Afrique du Nord, de Tunisie. 1 800 000 visiteurs s'étaient précipités à Vincennes. Et là, c'était en 1907. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, à l'orée du bois de Vincennes, il reste un certain nombre des pavillons de cette exposition qu'on a tendance à confondre avec des vestiges de l'exposition de 31. Ce sont des vestiges de l'exposition de 1907. Alors, en 1913, voit le jour un projet de toute autre envergure qui devait aboutir en 25 à une expo internationale à Paris. Au dernier moment, on avait renoncé à cette expo pour ne pas froisser les Britanniques qui étaient devenus nos principaux alliés depuis la Grande Guerre, il ne faut pas l'oublier. On va donc remonter un nouveau projet, c'est la loi du 22 juillet 1927 qui fait de l'exposition en gestation un établissement public. Le lieu est choisi, ce sera la Porte Dorée, ça va occuper un grand espace, hein, 110 hectares dans le bois de Vincennes. Le commissaire général est très prestigieux, très colonial aussi si j'ose dire, c'est le maréchal Lyautey. Lorsque Lyautey est appelé à superviser l'organisation de l'exposition, nous disent Catherine Audet et Michel Pierre, il est une des grandes figures légendaires de la France. Il reste dans la mémoire collective le pacificateur de l'Ouest algérien, le condottiere de Madagascar, le seigneur du Maroc. Profondément conservateur, farouchement anticommuniste, esthète fasciné par les horizons lointains, soldat et administrateur, catholique admirant l'islam, il est ce royaliste qui a donné un empire à la République, selon une expression que l'on aime à répéter dans les salons mondains qu'il ne déteste pas de fréquenter. Lyautey va dès lors profondément marquer, imprégner, inspirer le projet. Il a 65 ans à l'époque, il sait très bien que ça va être son ultime défi. Son horizon, c'est cette expo de 1931. Et la dimension politique de l'implantation de l'exposition dans l'Est parisien n'a pas échappé au maréchal Lyautey. Voilà ce qu'il nous dit. Nous allons planter au milieu de quartiers déshérités où vit une population qui n'est guère accoutumée à voir le flot venir à elle, cette exposition. Comme cela est intéressant, l'Est de Paris, n'est-ce pas une région dont on dit qu'elle est assez gagnée au communisme? Il est intéressant d'aller planter nos pousses coloniales au milieu de ce monde populaire dont les 9/10 ne sont ce qu'ils sont que parce qu'ils n'ont jamais parlé, parce qu'on n'a jamais parlé avec eux et dont les 9/10 sont au fond disposés autant que d'autres à nous comprendre et à marcher avec nous. Le maréchal Lyautey est très confiant, le gouvernement est très confiant, tout le monde sait que cette exposition coloniale va être un immense succès.
Thank you.
George Gershwin sur Europe 1, un extrait de Rhapsody in Blue. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'exposition coloniale de 1931.
Alors ce 6 mai 31, c'est bien sûr le maréchal Lyautey avec le président de la République, Gaston Doumergue, qui inaugure l'exposition coloniale. Il fait un temps mitigé quand la voiture décapotable du président dépose devant l'entrée monumentale, digne d'un décor de Hollywood, le président et le maréchal Lyautey. C'est l'inauguration, la foule empesée de ces années folles. Vous savez qu'on portait encore le haut de forme à l'époque. Le président de la République passe en revue un détachement de troupes coloniales, rehaussé par les cuivres sonnants de la musique militaire, puis il remonte en voiture, entouré de spahis magnifiques. Il conduit le cortège inaugural dans l'avenue des colonies françaises et l'avenue de l'Afrique du Nord. On contourne maintenant le lac Daumesnil, on ne sait pas où donner du regard. On salue les indigènes en uniforme qui, devant chaque pavillon, présentent les armes. Le cortège s'arrête devant l'incroyable reconstitution d'un temple d'Angkor qu'on a vraiment reconstruit, hein, plus vrai que nature. Pour tous les membres de la délégation, aucun doute n'est permis. Cette exposition est plus qu'une réussite, c'est un tour de force qui arrache des sourires, des ébahissements aux plus renfrognés. Maintenant, le cortège présidentiel se rend à pied vers la splendide salle des fêtes du musée permanent, véritable manifeste du goût 1930. Il existe toujours, hein, ce très beau musée de la Porte Dorée. C'est devenu le musée de l'immigration maintenant. Vous savez, c'est un bâtiment absolument somptueux. Le président salue les personnalités en habit, qui arborent en sautoir ou grand cordon des décorations souvent exotiques. Et déjà, le maréchal Lyautey prend la parole pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État et de l'Empire, à l'époque c'était son titre, et prononcer les mots de circonstance. Avant que Doumergue ne déclare officiellement ouverte l'exposition coloniale de Vincennes, c'est au ministre des colonies de dire quelques mots. Alors Paul Reynaud s'avance, le micro crachote un peu, hein, faut imaginer, on est en 1931, ça fait un peu comme ça. À 7 minutes, dit Paul Reynaud, grâce au poste de Pontoise inauguré hier, la voix que vous entendez est écoutée à Nouméa, à Hanoï, à Dakar, à Fort-de-France. Notre emprise sur le monde se resserre chaque jour. Notre idéal est tellement vivant que ce sont les idées d'Europe qui donnent aujourd'hui la fièvre en Asie. Ah ben dites donc, quand on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Un magnifique livre d'images destiné à célébrer les vertus du commerce colonial. La grande idée des organisateurs, c'est donc de frapper les imaginations, hein, et de modifier l'image que le français moyen peut avoir de ses colonies. Il s'agit d'amener la population à considérer une plus grande France de 100 millions d'habitants. L'accent est donc mis sur deux aspects, les bienfaits matériels de la colonisation pour la métropole et la mission civilisatrice de cette métropole qui essaie de se donner bonne conscience dans les colonies, évidemment. C'est une véritable foire pour les visiteurs, une fête permanente. Alors vous faites des promenades à dos de chameaux, il y a des pirogues malgaches sur le lac Daumesnil, on adorerait voir ça. Il y a des spectacles exotiques, plus ou moins réalistes, organisés un peu partout. Je vous rappelle le titre, enfin le slogan de l'expo, le tour du monde en un jour, c'est ça l'idée. Alors on a beaucoup critiqué cet aspect Luna Park, mais il faut peut-être le défendre. L'expo de 31 est un exemple de ce qu'on pourrait appeler l'enchantement du monde. Pour une fois, les diversités de la planète ont été présentées sous leur meilleur jour à des Français qui, par ailleurs, sont connus et déjà à l'époque étaient connus pour leur frilosité et leur penchant casanier. Je dirais que l'exposition coloniale, en montrant d'autres couleurs, en faisant entendre d'autres harmonies, en faisant goûter d'autres plats, respirer d'autres parfums, aura contribué, ça c'est certain, à modifier l'imaginaire des Français avec un plus pédagogique et la visite des fameux pavillons coloniaux qui vont faire le succès de l'exposition, particulièrement ceux qui recréent une ambiance locale pour les visiteurs. C'est le cas notamment du pavillon tunisien avec la reconstitution d'un véritable souk comprenant ses artisans au travail et ses vendeurs au milieu de ruelles étroites et mal pavées. Pour le reste, l'ordonnancement de l'expo fait la part belle à la section d'Asie, ça c'est assez nouveau. Il ne faut pas oublier que quelques temps avant, il y a eu les soulèvements en Annam qui ont amené certains hommes politiques à poser la question de l'avenir de l'Indochine. Donc on a beaucoup mis l'accent sur l'Indochine, d'où la reconstitution du temple d'Angkor, etc. Puis il y a la dimension artistique qui n'a pas été oubliée. L'art musulman, l'art noir sont abondamment représentés, ce qui n'est pas sans influencer les contemporains. Rappelez-vous les peintres, les sculpteurs de l'époque. Hein. Cette exposition coloniale va achever de les convertir à ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Donc, avec en plus une expo qui est ouverte jusqu'à minuit, en tout cas pendant les mois d'été. Donc vous voyez, il y a ce côté très festif. Si vous voulez bien me suivre, nous allons essayer de dépoussiérer un peu tous ces accessoires de fête abandonnés, ces palmiers en tôle, ces têtes d'éléphants monumentales en carton-pâte, pour tenter de redonner vie à tout ça un instant. Moi, il suffit que je pense à cet immense événement de 31 pour avoir l'impression d'entendre le brouhaha de la foule, le sifflement des micros, je vous le disais, le bruit de l'eau qui tombe partout des cascades artificielles. C'est un petit peu Euro Disney ou le parc Astérix, mais en nettement plus magique, en beaucoup plus fort. Les visiteurs arrivent par la grande esplanade de la Porte Dorée qui a été complètement refaite, scandée de palmiers. La première étape, c'est le musée des colonies qui a été construit donc pour l'occasion. Après le musée, les pavillons des vieilles colonies, les côtes françaises des Somalies, les Indes françaises, la Guyane, les Antilles, et ceux des missions catholiques et protestantes. On y voit un phare, un marché couvert, un porche de la demeure pondichérienne, un phareo, une maison commune polynésienne, ou encore une maison de pêcheurs. Vient ensuite le pavillon de l'Indochine, avec cette reproduction à l'échelle exacte du temple d'Angkor Wat qui occupe quelques 5000 mètres carrés. La flèche de la tour centrale atteint 55 mètres, les quatre tours latérales 43 mètres. Vous voyez un peu le genre de monument. C'est la pièce maîtresse de l'exposition, évidemment, et ça reste illuminé jusque tard dans la nuit. Et la suite de l'expo se passe dans le pavillon de l'AOF où on peut admirer un palais fortifié inspiré de celui de Tombouctou. En face, un autre pavillon plus modeste, celui de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, avec sa forme de case conique. La visite se poursuit par le pavillon de Madagascar avec une tour des Boucranes et les bâtiments des territoires nord-africains. Et après tous ces pavillons qui appartiennent à des colonies françaises, il y a les pavillons étrangers, bien entendu. L'exposition est internationale, ce qui fait qu'on va trouver le pavillon du Congo belge, des colonies africaines appartenant à l'Italie, avec notamment la reconstitution de la basilique de Leptis Magna, de l'Indonésie hollandaise, des colonies portugaises de l'Afrique, le Mozambique, l'Angola. Les États-Unis, ça paraît tout à fait incroyable, mais les États-Unis participent, malgré leur idéologie officiellement anticoloniale, ils participent à cette exposition avec une reconstitution de la maison de George Washington à Mount Vernon. Le tour du monde des puissances coloniales est incomplet puisque l'Espagne et le Japon ont décliné l'invitation de la France. On est en 1931, ça commence déjà à sentir singulièrement le roussi. L'Allemagne a totalement décliné l'invitation. Vous savez que les Allemands ne digèrent pas le fait de n'avoir pas eu le temps ou l'opportunité de constituer un empire colonial suffisant. Le grand absent de Vincennes surtout, et je pense que vous l'aurez noté, c'est l'Empire britannique. Les Anglais n'ont pas souhaité assumer la charge financière d'un pavillon. Une exposition coloniale à Paris où on va vanter l'Empire colonial français. Non, shocking.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur l'exposition coloniale de 1931.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous continuons à découvrir avec vous, et grâce à vous Franck Ferrand, l'exposition coloniale de 1931.
Alors pendant 193 jours d'ouverture continue, ce sont énormément d'entrées qui ont été vendues, sachant qu'un même visiteur donc a été amené à utiliser plusieurs fois le même ticket. On pense que ça fait environ 7 à 8 millions de visiteurs différents, puisque au total, voilà le chiffre que je cherchais tout à l'heure, 33 millions de tickets ont été vendus. Vous voyez, donc comme les gens viennent plusieurs fois, sur ces gens, il y a 3 millions de régionaux, donc de Paris, si vous voulez, 2 millions de provinciaux, 1 million d'étrangers. Ça donne la mesure hein, quand même de l'engouement pour cet extraordinaire événement. Les organisateurs voulaient faire œuvre pédagogique, voulaient faire entrer les colonies et l'Empire dans l'inconscient collectif des Français, et sur le coup, ils ont pu penser avoir réussi. Vous verrez qu'en fait, c'est beaucoup plus contesté que ça en a l'air. L'exposition coloniale a été un triomphe et une espérance, écrit le président du Conseil, André Tardieu. Quant au grand Paul Valéry, voilà ce qu'il précise. L'exposition magnifiquement organisée avait produit une impression considérable dans le pays. Le plus grand nombre des Français n'avaient de leur colonie qu'une idée vague, sinon toute fausse, où il entrait de l'indifférence, sinon quelques sentiments assez peu favorables. L'exposition a mis la nation en présence de son œuvre. Elle lui a fait concevoir sa puissance et ses responsabilités. Mais au-delà de ces belles paroles, les analystes se montrent plus circonspects et le maréchal Lyautey lui-même va estimer, pas très longtemps après, hein, un an plus tard, que l'exposition, qui est un triomphe sur le plan matériel, laisse de nombreux regrets sur un terrain, disons, plus spirituel. Les Français se sont divertis, ça c'est certain. Est-ce que leur vision de l'Empire a changé? Ça l'est beaucoup moins. Il est vrai que tous les responsables, ou presque, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, ont fait taire leur querelle pour s'accorder sur l'exposition dans une sorte de nouvelle union sacrée. Enfin, quand je dis tous, pas tout à fait tous, car quelques voix se sont opposées, bien entendu, à cette exposition universelle. Lors du concert unanime d'invitation à se rendre à l'exposition à la veille du 1er mai, quelques jours à peine de l'inauguration, un tract est distribué et sur le tract on peut lire « Ne visitez pas l'exposition coloniale ». Il y est écrit « C'est pour implanter ce concept ». Escroquerie que l'on a bâti les pavillons de l'exposition de Vincennes, il s'agit d'annexer au fin paysage de France déjà très relevé avant-guerre par une chanson sur la cabane bambou, une perspective de minarets et de pagodes. Les principales idées, c'est que la colonisation s'est faite souvent dans la violence. On rappelle le massacre d'un certain nombre de batailles coloniales. On rappelle aussi le sacrifice des indigènes, comme on les appelait dans les tranchées de la guerre de 14, le travail forcé dans certaines colonies, etc. On demande, en tout cas les signataires demandent, l'évacuation immédiate des colonies. Et parmi les signataires de cette espèce de manifeste anticolonial, on trouve André Breton, on trouve Paul Éluard, on trouve Aragon, on trouve René Char. Bref, les surréalistes, si vous voulez. Même nom que leur revue créée quelques mois plus tôt, les surréalistes au service de la Révolution, tous sont membres du Parti communiste. Alors, une contre-exposition va même être organisée, et c'est Aragon qui se souvient, je le cite. « J'avais réussi à m'entendre avec la CGTU pour organiser une exposition anticoloniale dans un bâtiment qui se trouvait sur un terrain appartenant à cette organisation au bas de ce qui avait été la rue de Presley, là où se trouve actuellement le siège du comité central du Parti communiste Place Fabien. Ce bâtiment était le pavillon constructiviste des soviets à l'exposition des arts décoratifs de 1925, donné à la centrale ouvrière. Le pavillon ne désemplissait pas, dit Aragon. Effectivement, il ne devait pas être trop grand, donc on peut comprendre qu'il n'est pas désempli. Cette exposition anticolonialiste s'appelle « La vérité sur les colonies » et elle va être en quelque sorte le seul véritable contrepoint à l'exposition coloniale. Paul Reynaud, qui est le ministre des colonies, dans l'introduction au livre d'or de l'expo coloniale, qui a été donc publié bien sûr en 1931, écrit « Depuis 100 ans, nous avions retrouvé la tradition, remporté des succès magnifiques et ininterrompus, Algérie, Indochine, Tunisie, Madagascar, Afrique occidentale, Congo, Maroc. Malgré tout, le préjugé subsistait. Le français, répétait-on, n'est pas colonial. Il a fallu l'exposition actuelle et son triomphe inouï pour dissiper les nuées. » C'est quand même assez étonnant de penser qu'on est en 1931 et qu'en 1931, les gouvernants de l'époque non seulement ont le sentiment qu'à travers le succès de l'exposition coloniale, c'est un nouvel avenir, ce sont de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour les Français de l'époque, mais, et ça me paraît peut-être encore plus stupéfiant, que ce doit être la voie, que c'est précisément la perspective qu'il faut leur fixer. Et l'homme qui dit ça n'est pas un réactionnaire colonialiste effroyable, ça n'est autre que le très modéré, très démocrate, très éclairé Paul Reynaud. Donc vous voyez à quel point les mentalités ont pu évoluer depuis cette époque. Je trouve ça très intéressant. À travers l'expo coloniale et la présentation qu'elle donne de la pluralité ethnique, d'une façon générale, c'est aussi la question du racisme qui est posée. Et c'est parce que la manifestation reste connotée à tort ou à raison d'un certain racisme qu'elle a quasiment disparu de notre mémoire collective aujourd'hui. Il y a eu cette affaire, vous savez, extrêmement choquante, de ces Kanaks que l'on présentait comme des mangeurs d'hommes et qu'on avait installés dans l'exposition coloniale pour faire peur un peu aux visiteurs. Ils étaient un peu le clou de l'expo. Et on disait, attention, regardez, ne vous approchez pas trop, ce sont des anthropophages. Etc. Ça paraît complètement fou, surtout lorsqu'on sait, et Eric Orsenna a écrit un très joli livre là-dessus, rappelez-vous, hein, sur l'exposition coloniale, ce très beau roman qui a été pris Goncourt d'ailleurs, lorsqu'on sait que les Kanaks en question étaient des chargés de recherche à l'université de Nouméa, etc. et qu'on les faisait passer là pour des espèces de sauvages au sens propre. Il y avait quand même bien ce petit relent d'un autre âge qui, évidemment, aujourd'hui joue un rôle très négatif et fait qu'on préfère oublier, en quelque sorte, le souvenir de cette grande exposition de 1931. L'heure est venue des doutes, si je puis dire, des gênes, de la mauvaise conscience, du remords. L'histoire va bientôt tourner la page et l'Europe pourra contempler, un petit peu éberluée, disons-le, son propre aveuglement. C'est ce que Pascal Bruckner appellera le sanglot de l'homme blanc. Bonjour Michel Louis, alors avec vous, Franck. Nous n'allons pas parler de l'exposition coloniale, mais de son principal vestige à nos jours, le zoo de Vincennes.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand, de l'histoire des zoos avec votre invité Michel Louis, directeur général et fondateur du parc zoologique à Amnéville en Moselle.
Eh oui, Michel Louis qui était venu nous parler de la bête du Gévaudan il y a quelque temps et puis de ces lions mangeurs d'hommes de Tsavaux, donc émission qui restait dans nos mémoires. Alors je suis en train de feuilleter un très très bel album, ça s'appelle Le Parc Zoologique de Paris, des origines à la rénovation, c'est co-signé par Marie-Vonne Leclerc-Cassan, Dominique Pinon et Isabelle Varmoès, et édité donc par le Muséum National d'Histoire Naturelle, Somogy et le Parc Zoologique lui-même, et il y a toute l'histoire bien sûr. Alors on voit ce qu'a été pendant très longtemps le grand zoo de Paris, si je puis dire, c'est-à-dire le parc du Jardin des Plantes, et puis on voit apparaître effectivement à l'occasion de cette exposition coloniale de 1931 l'ancêtre immédiat du zoo de Vincennes, Michel Louis, parce que le zoo de Vincennes a été déplacé hein, de quelques centaines de mètres, mais c'était bien le concept de l'exposition universelle que de présenter les animaux non pas en liberté mais en tout cas sans barreaux. Ça qui...
Oui, tout à fait. Alors le zoo de Vincennes, on l'a toujours appelé zoo de Vincennes. En fait, c'était le zoo de Paris, hein, de la ville de Paris. Ça insère évidemment
parce
dans le cadre.
Ce qu'il faut savoir, juste une toute petite précision à ce sujet, mais c'est que le bois de Vincennes, dans lequel se trouvait l'exposition universelle et dans l'exposition coloniale et ce fameux zoo de Vincennes, était une ancienne dépendance de la couronne de France qui avait été versée à la ville de Paris, donc qui fait partie du territoire parisien, effectivement. Alors, pardon.
Donc, oui, donc le zoo de Vincennes, sa création s'inscrit dans le cadre de l'exposition coloniale. Mais je pense que de toute manière, on avait le désir à l'époque de créer un grand parc zoologique à Paris d'une conception plus ouverte que la ménagerie du Jardin des Plantes. La ménagerie du Jardin des Plantes, elle est très ancienne, elle date de l'époque de la Révolution, puisqu'auparavant, il y avait déjà une ménagerie, mais c'était les Jardins du Roi à Versailles. Et au début du XXe siècle, on a commencé à évoluer vers ce qu'on appelait le zoo sans barreaux. C'est Hagenbeck, au zoo de Hambourg, qui en est le précurseur, avec donc des plateaux plutôt séparés par
des fossés, en fait, voilà,
tout ça un petit peu aménagé autour de rochers, d'enrochements. Et effectivement, c'était une méthode assez révolutionnaire à l'époque de présenter les animaux. Alors quand on regarde sur le zoo de Vincennes tel qu'il était il y a encore donc 5-6 ans, on voit qu'on connaissait pas très bien, par exemple, la puissance de saut d'un félin, parce que les fossés faisaient au moins 10 mètres de largeur, alors que 6 mètres suffisaient amplement, vous voyez. Mais voilà, c'était une manière assez révolutionnaire de présenter
les
choses.
C'est important ce que vous dites, parce que moi j'ai des souvenirs d'enfance, mais lorsque j'allais au zoo de Vincennes étant petit, j'étais frappé de l'éloignement des animaux. Effectivement, ces fossés étaient tellement larges qu'on avait l'impression que les animaux étaient quand même très loin par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres parcs zoologiques, évidemment.
Oui, tout à fait. Et dans un certain nombre de cas, on aurait pu quand même les mettre moins loin, surtout qu'il y a les petites techniques en les mettant légèrement contrebas qui réduisent encore quand même la longueur possible d'un saut.
Ce qu'il y a de fascinant à Vincennes, c'est l'incroyable architecture, comment pourrait-on dire, faussement naturelle qui englobe, qui décore l'ensemble des lieux, avec cette extraordinaire montagne de béton, hein, notamment. On a une sorte de paysage qui se veut une forme d'évocation un peu africaine, mais qui surtout fait beaucoup penser au style et au goût des années 30, en vérité.
Oui,
c'est très art déco.
Ce rocher de Vincennes, c'est vraiment un monument qu'on aperçoit de loin, bon, pas aussi loin que la Tour Eiffel, mais c'est vraiment partie du paysage parisien. Mais en fait, les concepteurs du zoo de Vincennes de l'époque finalement été un petit peu les ancêtres d'AB aujourd'hui, vous voyez, de ceux qui font la décoration dans les à Marne-la-Vallée, aux eaux d'Amnéville et dans d'autres parcs, où on retrouve le faux rocher, hein, le béton projeté, mais d'une manière évidemment complètement différente.
Oui, aujourd'hui ça se voit beaucoup moins, si
voilà,
je puis dire.
Voilà, c'est beaucoup noyé dans la
plus
verdure,
intégré, voilà.
Noyé de manière beaucoup plus intégrée, tout à fait.
Oui. Alors ça avait ce zoo de Vincennes, ça a eu un succès tel, il avait été prévu au début que ça ne dure que le temps de l'exposition.
Oui.
Et puis devant l'incroyable succès, le nombre d'entrées était presque aussi important que le nombre d'entrées pour le reste de l'exposition. On s'est dit, il faut le garder ce zoo, et donc on l'a déplacé, réaménagé, et on a construit ces extraordinaires rochers, faux rochers, hein, avec des armatures et du béton projeté sur les dites armatures, avec aussi des parties invisibles au public, parce qu'il y a des parties intérieures, hein, il y a des réserves,
bien sûr,
je sais pas,
oui.
Des parties techniques. Et puis, bien sûr, ces espèces de plateformes présentées un peu comme des îlots, d'une certaine manière, où l'on montrait les animaux, les grands animaux.
Oui, tout ça, c'était assez homogène, en fait, puisque tant les herbivores derrière des petits fossés, que les éléphants ou les fauves derrière d'immenses fosses, le point commun de tout ça, c'était de les présenter sans grillage, en fait, entre les yeux des visiteurs et l'animal. Bon, depuis, on a d'autres concepts, comme les baies vitrées.
Vous nous dites que le premier à l'avoir fait, c'était Hagenbeck à Hambourg. Les Allemands ont toujours été un peu pionniers dans ce domaine des parcs zoologiques, en fait.
Oui, c'est vrai que...
D'une façon générale, le monde germanique, les Suisses aussi, hein,
oui,
je crois.
Oui, mais c'est vrai que dans tout ce qui touche un petit peu au domaine animalier, les Allemands ont souvent été précurseurs. Et effectivement, et aujourd'hui encore, je dirais que, à mon avis, si je devais mettre un numéro 1 en Europe, je parlerais peut-être de Leipzig.
Oui, le zoo de Leipzig actuellement.
Ah oui.
Ah oui.
C'est vraiment, actuellement, pour moi, le zoo qui est à la pointe. Vous savez, chaque zoo, ça évolue par vague. Hein. Moi, quand j'étais enfant, c'était Vincennes, mais encore plus Bâle, qui était le numéro 1. Et puis d'autres ont pris le dessus, comme Emmen en Hollande. Et puis quelquefois, ces parcs de ville sont l'objet de problèmes dus à l'enserrement dans les habitations, s'excentrent hors des villes, et du coup, bon, cèdent la place à d'autres. Et voilà, aujourd'hui, il y a des parcs... c'est comme en France aussi, vous savez, bon, il y a eu des époques où les plus gros parcs, les plus grandes collections n'étaient pas forcément ceux qui sont aujourd'hui.
Alors, on a bien sûr des visions du zoo de Vincennes dans un très grand nombre de films français. Je pense notamment à La Grande Vadrouille, bien entendu, puisque la scène d'ouverture du film se passe au zoo de Vincennes. Je pense au Père Noël est une ordure. Enfin bon, on pourrait en citer un certain nombre. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que ce zoo avait fini dans les années 90 et puis 2000. Alors là, vraiment à tomber dans une forme de relégation. C'était un endroit qui était de moins en moins fréquenté. Enfin, à la fin, il y avait quand même encore de plus de 200, presque 300 000 visiteurs, mais c'était plus du tout le triomphe qu'on avait connu autrefois. Et là, il vient de faire peau neuve. Vous l'avez visité, vous, j'imagine?
Oh, bien sûr, avant, oui, même l'ouverture officielle. Hein, j'ai eu la chance de visiter le chantier, enfin vraiment fin de chantier, avec le vétérinaire chef, je crois, docteur Alexis Lécu.
Et c'est tout, c'est beau, j'imagine. Moi, je suis pas encore allé.
Absolument, hein, c'est divisé en secteurs zoogéographiques. Je pense que ce qui est présenté est très beau. Alors, ils ont fait des choix dans la présentation, des choix qui les regardent et qui n'auraient pas forcément été les miens. Mais voilà, après, c'est au public d'en juger, quoi.
Il y a de très nombreux animaux.
La collection, si vous voulez, pour les gens, que ce soit public, subventionné ou pas, que ce soit Bouygues ou peu importe, pour les gens, c'est un grand zoo d'État.
Voilà, oui.
À partir de là, pour ce qui est perçu comme un grand zoo d'État, je trouve que la collection est pas très importante, et surtout qu'il manque quand même quelques animaux emblématiques.
Oui, ah bon, mais il y a peut-être quelques progrès à faire dans les temps qui viennent. Alors, ce que j'aimerais que nous évoquions maintenant, Michel Louis, c'est l'histoire de cette notion même de parc zoologique. Vous avez dit tout à l'heure, on a fait qu'effleurer le sujet, vous avez dit que ça remontait au Moyen-Âge, et il y a des ménageries, hein, depuis presque aussi loin qu'on s'en souvienne, puisque même dans l'Antiquité, il y a des ménageries célèbres, en fait. Hein.
Bien sûr, et à l'époque des Romains, ils gardaient un grand nombre de lions, de tigres et de toutes sortes de fauves. Et vous savez l'usage qu'ils en ont fait, malheureusement.
Oui, bien sûr, oui. Ces espèces de spectacles abominables.
Ah, puis de massacres de chrétiens, enfin,
oui.
Bon,
c'est aussi, oui.
Notamment sous Néron. Hein.
Oui. Alors, la ménagerie va devenir peu à peu une sorte d'apanage du roi ou des grands seigneurs, en fait.
Oui, bien sûr.
Il y a bien sûr les montreurs d'ours sur les places de marché et de foire, mais essentiellement ne peuvent entretenir des des animaux rares que les personnes qui en ont les moyens. Et c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est un, c'est, ça appartient au roi. Hein,
tout à fait, au roi ou vraiment aux grandes familles. Sous l'Ancien Régime, effectivement, bon, il n'y avait pas... comme vous dites, le peuple, le seul accès qu'il avait vers le monde sauvage, c'était les petits démontreurs d'ours, des mini-ménageries ambulantes. Ensuite, au XIXe siècle, sont apparues les ménageries foraines, également itinérantes, mais avec des collections beaucoup plus importantes.
Oui, c'était l'ancêtre des cirques, mais entre les deux, il y a quand même eu les très grandes ménageries des monarques. Je pense à la ménagerie de Versailles, hein, bien
tout
entendu,
fait,
que je connais bien, évidemment.
Les jardins du roi, effectivement.
Là, c'était très important, hein, cette espèce d'octogone incroyable qui se situait sur la pointe sud du Grand Canal à Versailles, oui. Et où l'on présentait des animaux extrêmement rares. Alors, il y avait là un rhinocéros qui, d'ailleurs, aujourd'hui est naturalisé, voilà. Trouve au Muséum National d'Histoire Naturelle, le rhinocéros de Louis XV. Il y avait même un éléphant qui s'est noyé sous le règne de Louis XVI. J'ai cherché à en savoir plus, mais pour tout vous dire, je n'arrive pas. Je bute là sur une certaine brume. Je n'arrive pas à trouver exactement dans quelles circonstances. Mais en tout cas, cet éléphant s'est noyé visiblement un jour de grand lavage, dans très peu d'eau d'ailleurs. Mais
c'est surprenant parce que l'éléphant nage très bien, mais il devait quand même y avoir suffisamment d'eau pour qu'il se noie et probablement aucune possibilité de sortir. Un mur droit, un mur vertical probablement. Sinon, pour qu'un éléphant se noie, c'est pas de chance. Hein.
Et puis alors arrive la Révolution française, bien entendu, et l'ensemble des animaux du jardin du roi, enfin de la ménagerie royale de Versailles, est transféré au jardin des plantes à Paris. Et ça va être l'origine de la fameuse ménagerie du jardin des plantes qui ouvre en 1794, c'est-à-dire au moment le plus fort de la Révolution, et qui va devenir, alors là, très célèbre. C'est le grand zoo parisien, pour le coup.
Absolument, avec une collection très importante. On a même toujours eu des animaux qui figuraient dans la ménagerie du jardin des plantes et qui n'étaient pas à Vincennes. Hein, les grands singes, par exemple, les reptiles, n'étaient pas à Vincennes, mais à la ménagerie du jardin des plantes. Il y a eu vaguement un projet de réunification sous Giscard d'Estaing, mais qui a coupé court en 1981.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que au Jardin des Plantes avaient travaillé de très grands naturalistes, hein, bien entendu.
Sûr.
On est là au muséum, enfin à l'origine du Muséum National, hein, Cuvier, bien entendu, Buffon, qui est le grand éthologiste avant l'heure, si j'ose dire, hein, qui étudiait le comportement des animaux. La ménagerie du Jardin des Plantes va connaître ses heures les plus célèbres et en même temps les plus sanglantes au moment du siège de Paris en 1870, puisque pour le réveillon de Noël 1870, on a été jusqu'à tuer Castor et Pollux, qui étaient les deux éléphants du zoo, enfin on disait de la ménagerie à l'époque, pour nourrir les Parisiens, tout simplement.
Oui,
pour,
mais c'est vrai que
pour voilà, agrémenter c'est... un peu le réveillon.
Tout ça parce qu'un général Messin avait laissé passer les Allemands, les Prussiens.
Donc ça a été le moment terrible. Et puis on arrive à l'ère moderne des zoos, si je puis dire, celle que vous connaissez si bien. C'est quoi? C'est la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors là, il y a une véritable passion. Alors il y a les zoos itinérants qui accompagnent les grands cirques, bien entendu. Ils sont très importants dans les années 1900-1920. Mais il y a aussi des zoos, des parcs zoologiques à demeure, qui sont encore des parcs à cages, si je puis dire, essentiellement.
Oui, un début d'évolution, on l'a bien vu tout à l'heure en parlant du zoo de Vincennes, et puis également des zoos comme Lyon, comme Marseille, étaient quand même, oui, à l'époque, vous dites, des zoos traditionnels avec des cages, effectivement. C'est plus tard que, par exemple, c'est le professeur de Chanel qui, à Lyon, a fait les enclos beaucoup plus ouverts, mais ça remonte aux années 70-80.
Alors, dans un instant, on va justement venir à la période un peu plus récente et à toute l'opposition contre les zoos, bien entendu, car elle est encore très vive.
Thank you.
Puccini sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Atari. Nous sommes au cœur de l'histoire sur Europe 1, de l'histoire des zoos, avec vous Franck Ferrand et votre invité Michel Louis, directeur général et fondateur du parc zoologique d'Amnéville en Moselle.
Alors Michel Louis insistait sur la dimension nationale, quasi étatique, qui s'attache en tout cas dans l'imaginaire des gens aux célèbres zoos de Vincennes. Les grands zoos européens du XXe siècle, ce sont les zoos de grandes villes. Bien sûr le zoo de Londres qui fait l'objet de si nombreuses adaptations au cinéma, enfin dans tous les domaines. Le zoo de Zurich, le zoo de Berne, de Berlin, de Cologne, qui est un très beau zoo, je me rappelle avoir visité ça dans mon enfance. Le zoo de Francfort. En France, il y avait donc Vincennes, qui est en fait le zoo de Paris, disons. Lyon, le parc de la Tête d'Or. Le zoo de Marseille, alors lui, aujourd'hui, n'existe plus.
Il a disparu, enfin en tout cas en tant que zoo. Il y a peut-être une promenade avec quelques animaux domestiques ou des daims, mais le zoo de Marseille n'est plus.
Il y avait aussi celui de Mulhouse, hein, le zoo de Mulhouse.
Voilà, qui est plus récent, mais effectivement, qui est antérieur aux zoos privés dont je vais vous parler dans un instant.
Alors voilà, les zoos privés, ils naissent, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel, et ils naissent dans un climat très particulier, très porteur. C'est celui, notamment, de ces films. On a entendu tout à l'heure un extrait de la BO de... Enfin, à l'instant, un extrait de la BO de Atari. On est mais ces grandes sagas dans la savane, etc. Il y avait le feuilleton d'Actari aussi, qui racontait les aventures d'un vétérinaire au Kenya.
C'était de nombreuses vocations de vétérinaire aux zoos, d'ailleurs.
Exactement. Et donc, ces zoos privés, ils vont naître dans les années 60-70. Il y a un nom qu'on ne peut pas ignorer, c'est celui de Jean Richard, bien entendu, l'acteur Jean Richard, qui était passionné par tout ça.
Alors, le premier zoo privé en France, c'était le zoo de la Flèche. Jacques Bouillot.
Dans la Sarthe, donc.
Dans la Sarthe, Jacques Bouillot. Qui recueillait, c'est un naturaliste qui recueillait les animaux blessés de la région, et puis des gens qui revenaient d'Afrique lui ramenaient un petit crocodile. Enfin, insensiblement comme ça, une collection s'est montée jusqu'au jour où c'est devenu le zoo du Tertre Rouge. Et c'est lui qui était le premier zoo privé, suivi par, effectivement, à peu près simultanément, par Louis Guay à Douai-la-Fontaine et par Jean Richard à Hermenonville. Et Jean Richard, effectivement, qui a monté un zoo, qui plus tard a monté un cirque et a racheté le cirque Pinder. Enfin, ça a été tout un empire. Et puis, beaucoup d'autres ont suivi. Il y a le zoo de la Palmyre à Royan.
En 66, la Palmyre.
Voilà. Et puis...
Il y en a un qu'il faut pas oublier, c'est le parc de Thoiry qui a joué un rôle très important, puisque alors là, on n'était plus dans un zoo, on était dans une espèce de réserve et les gens entraient en voiture. Je me rappelle, ça c'était la grande passion dans les années 70. Voilà, moi j'ai vécu ça en 71. Je me rappelle être allé là, j'étais vraiment tout petit, mais j'en ai le souvenir. On se promenait avec les voitures au milieu des éléphants, des lions, ça paraissait extraordinaire. C'était d'ailleurs un peu dangereux, non?
Au milieu des lions, oui. Les éléphants, il y avait, si vous voulez, ils étaient dans un enclos habilement camouflé, parce que là, ce serait vraiment dangereux. Mais effectivement, les fauves, ça nécessitait une surveillance de chaque instant, parce que mon vétérinaire chef a commencé sa carrière à Thoiry et a dû intervenir quelquefois pour, vous savez, remédier à des comportements inconscients.
Les gens sortent pour mieux photographier.
Ah oui, j'installe la table de camping, c'est incroyable.
Ça existe toujours, d'ailleurs, le parc
du
château Thoiry.
Absolument, oui, mais voilà, il y a Thoiry, il y a différents safari parks comme ça, qui souvent reviennent vers des, en tout cas une bonne partie de parc à pied quand même.
Alors, il y a une personnalité qu'on ne peut pas ne pas nommer, c'est le docteur Klein qui s'est rendu célèbre en étant un peu le vétérinaire de ces zoos.
Le médecin des fauves, effectivement, et qui a marqué profondément une génération. Je sais que c'était l'idole aussi de mon vétérinaire quand il était jeune et encore maintenant. Et effectivement, c'était à l'époque le d'Actari en France.
Le vrai d'Actari.
Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont certainement de la même compétence, voire plus, parce que la médecine vétérinaire a évolué. Mais à l'époque, disons qu'il était très médiatisé.
Alors, comme toujours, il y a eu, je dis comme toujours parce qu'on trouve la même chose dans le domaine du spectacle, dans bien des domaines, il y a eu une très forte contestation et sans doute aussi de réels abus dans les années 70, suivi dans les années 80 d'un renouveau, d'une sorte de renaissance. En quelque sorte. Alors, comment expliquez-vous ça, vous?
Alors, d'une manière générale, comme on l'a dit tout à l'heure, les zoos ont évolué. Mais en France en particulier, c'est vrai que le zoo privé, c'était un petit peu une institution française quand même. D'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui, si on se réfère au nombre d'entrées, les trois plus grands zoos français sont les zoos privés. Mais dans les années 60-70, ils sont multipliés anarchiquement. Quelqu'un qui avait un peu d'argent montait vite fait un petit zoo pour en gagner beaucoup. et n'y connaissait rien, vous imaginez que le résultat, il n'était pas brillant.
Alors, il y a cette loi, on faisait beaucoup de lois hein, en France dans les années 70, la loi de première loi de protection de la nature, c'est 1978 qui crée des normes justement.
Absolument, mais ça c'était attendu. Les abus dont vous parliez tout à l'heure ont provoqué effectivement une campagne anti-zoo dans les années 70-80 qui n'a jamais enlevé un visiteur au zoo, hein, parce que bon, il y a toujours des minorités qui font beaucoup de bruit, mais une évolution était nécessaire, c'est vrai.
Alors justement, les minorités en question, on va les entendre à travers le chanteur Benabar dans un instant, et je vais vous demander de réagir, Michel Louis.
Le rhinocéros du zoo de Vincennes, sa peau, une écorce qui craquelle, il traîne. Licorne monstrueuse aux paupières de terre glaise, mastodonte de peine sans espoir de remise. Vieillard, un enclos de béton vieux, vieille gloire, un hospice de banlieue. À l'étroit piégé dans le zoo de Vincennes, une baleine noyée dans les eaux de la Seine, quel chagrin.
Benabar sur Europe 1 avec le zoo de Vincennes, avant travaux là.
Ça c'est la vision carcérale du zoo.
Oui, alors ce que j'en pense très sincèrement, ne m'envoyez pas de répondre avec mon franc-parler, c'est idiot. Ça n'a aucun sens, vu que les animaux du zoo de Vincennes, comme tous les animaux des zoos, sont issus de nombreuses générations en captivité.
Oui, c'est-à-dire que ce ne sont pas des animaux sauvages qu'on colle à Vincennes.
Absolument, ce sont des animaux qui sont en captivité depuis des générations, qui ignorent complètement la liberté, qui d'ailleurs, c'est un sentiment qui est complètement étranger à l'animal. Hein. À l'époque, quand on a capturé les animaux, parce qu'il a bien fallu en capturer, dans la fin du 19e ou 20e, alors il y a un stress au moment, bien sûr, de la capture, du transport, et puis après, arriver dans le zoo, si l'animal est bien traité, bien nourri, vous savez, il s'y adapte très vite. Après, la question de l'espace vital dépend énormément. Pour ne parler que des carnivores, le loup a besoin de beaucoup d'espace, les grands félins, très peu. Bon, mais alors bon, voilà, ça c'est la chanson, vous savez, oui, comme ça.
Elle est très belle, la chanson. Les vers sont beaux.
Oui, quelques groupuscules pourront encore se faire subventionner avec l'argent public pour faire de la diffamation sur les zoos, sur les cirques. Mais vous savez, je vous dis, ça n'a jamais enlevé un visiteur au zoo, ni au cirque également. Bien au contraire.
Alors quels sont les rôles, selon vous, après cette déclaration, ce manifeste en direct sur Europe 1, quels sont d'après vous les rôles aujourd'hui que le parc zoologique peut tenir? Alors, un rôle pédagogique, j'imagine, hein, ça reste l'essentiel peut-être.
Absolument, le rôle pédagogique est essentiel, c'est évidemment un lieu privilégié pour parler des animaux, instruire un petit peu les gens, parce qu'il y en a grand besoin hein, sur le monde animal. Sur le comportement animal, sur la réalité des animaux, je pense que sur le loup, il y a beaucoup à dire, parce que le loup aussi est beaucoup victime de diffamation en ce moment. Sensibiliser les gens, justement, au problème de la disparition des espèces, parce que dans la nature, tellement idyllique, selon notre ami chanteur, c'est une catastrophe.
Hein,
les animaux sont massacrés par la déforestation, par le trafic. Alors, il y a un deuxième rôle des zoos, c'est la conservation de la biodiversité. De deux manières, par les plans d'élevage, en faisant l'élevage dans de bonnes conditions de ces espèces menacées de disparition de leur milieu naturel, et aussi en agissant directement sur les milieux naturels, en soutenant financièrement les ONG qui travaillent aux quatre coins du monde pour essayer de limiter les dégâts. Troisième rôle du zoo, c'est un rôle dans la recherche. Alors, conçu peut-être différemment entre les zoos privés et les zoos publics. C'est vrai que nous, on a dans les zoos privés beaucoup l'attachement à l'animal en tant qu'individu. Nos animaux ne sont pas des tubes à essai. Hein. Mais néanmoins, les vétérinaires effectuent les travaux de recherche sur les pathologies, sur le comportement, c'est très important. Ne pas oublier quand même, parce que je déteste l'hypocrisie. Vous voyez, si les gens viennent voir nos établissements, à 100%, c'est pour passer une bonne journée. C'est pour s'évader. Alors, n'oublions quand même pas que c'est un rôle récréatif, un rôle ludique, mais qui doit se doubler, d'ailleurs la loi le dit, hein, d'un rôle pédagogique, conservation, recherche.
Alors, vous êtes vous-même à la tête d'un des trois plus grands zoos français actuels, hein, le parc de zoos d'Amnéville. Il date de 1986, oui, c'est ça.
On est un des plus jeunes.
Oui, c'est ça, un des derniers venus d'une certaine manière.
Voilà,
donc vous avez pu profiter de la leçon de tous les précédents, c'est ça?
Voilà, hein, on est arrivé, la naissance du zoo était un petit peu un accouchement dans la douleur, parce que c'était un petit peu, on verrait contre tout. Hein, après les campagnes anti-zoo, on était les premiers à vouloir ouvrir, mais vous voyez, ça ne nous a pas empêché de faire notre chemin.
Et 600 000 visiteurs par an, hein, c'est
là,
ça?
Là, actuellement, en moyenne, oui. 600 000 entrées par an. Et puis, effectivement, oui, on a bien sûr profité de l'expérience des anciens, avec notre identité propre. On essaie toujours de voir ce qui se fait bien, et puis de limiter, de faire mieux si on peut.
Et vous allez dans l'avenir proposer de nouvelles choses. Il y a des spectacles notamment.
Absolument. Alors ça, les spectacles, j'y tiens énormément. C'est le meilleur moyen pour justement sensibiliser le public en lui montrant les animaux en action. C'est le meilleur moyen de les sensibiliser à la conservation, et c'est ce qu'on peut faire de mieux pour le bien-être animal. On sait que en zoo, les animaux sont bien nourris, soignés s'ils sont malades, vivent plus vieux et plus longtemps que dans la nature. Il faut faire attention qu'ils ne s'ennuient pas par manque d'activité. Alors, les zoos y suppléent par les techniques d'enrichissement du comportement, en cachant de la nourriture, en offrant des jouets, en variant l'environnement. Mais quand on peut les faire travailler dans un spectacle, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Il n'y a qu'à voir l'épanouissement de ces animaux qui sont dressés au contact de l'homme. Alors là encore, bien sûr, des groupuscules d'asticots vous diront tout un tas de mensonges et de calomnies là-dessus. Mais ça ne mérite rien d'autre que les procès en diffamation qui ne manqueront pas de déclencher.
En diffamation, quand ils attaquent personnellement les gens, sinon...
C'est vrai qu'ils sont très habiles pour éviter de le faire nominalement. J'espère qu'ils le feront.
Vous avez 2000 animaux à Amnéville, c'est ça ?
Environ 2000 animaux appartenant à 360 espèces différentes.
Ah oui, c'est très très vaste dans tous les règnes animaux, si
voilà,
je puis dire.
Voilà, mammifères, oiseaux, reptiles.
Oui. Mammifères, oiseaux, reptiles. Oui, vous n'avez pas de cétacés, de choses comme ça. Vous n'avez pas...
C'est les mammifères.
Oui, ce sont des mammifères, c'est vrai.
Cétacés, je dirais, pour l'instant, non.
Non. Ah bon, c'est en projet.
On verra bien.
Bon, mais voilà, je vous aurais au moins, sinon fait dire ça, mais laisser entendre. On va faire une chose qu'on ne fait généralement pas dans cette émission consacrée à l'histoire, mais puisqu'on a balayé cette très longue période, ces quelques siècles de parcs zoologiques, j'aimerais que vous me disiez quel est selon vous l'avenir du zoo. Vous le voyez comment? Quelle forme prendra-t-il? La forme d'une réserve dans laquelle on circulera librement? La forme d'un retour à des cages virtuelles? Enfin, quel est d'après vous?
Alors écoutez, à mon avis, non, certainement pas des circuits en voiture, certainement pas en agro- grandissant les enclos à l'infini, ce qui n'est pas bon du tout pour le bien-être animal. Ils utilisent dans ce cas-là 5 ou 10% de leur enclos et n'ont pas le sentiment de sécurité que leur procure un enclos plus petit, bon, de dimension bien sûr raisonnable quand même. Hein. Je pense que l'avenir du zoo, vous savez, dimension des enclos, dimension du parc, ça dépend des moyens et de la sensibilité de chacun. Mais je pense que le zoo doit être une vitrine de la nature, doit montrer les animaux en action et si possible en arrière-plan de leur milieu naturel. Donc j'y vois l'utilisation des techniques modernes d'informatique pour montrer en arrière-plan le milieu naturel, et j'y vois pour ma part, et je le dis clairement, et j'appelle les confrères à ne pas céder au terrorisme intellectuel de certains, je le vois dans les spectacles mettant les animaux en action.
Eh bien voilà, tout ça aura le mérite de n'être pas du tout dans le politiquement correct. Merci beaucoup Michel Louis. Vous étiez venu nous parler des lions de Savoie et vous êtes venu aujourd'hui avec votre guide sur place, hein, c'est
notre
ça ?
Notre guide est Miouyou, effectivement, qui depuis une quinzaine d'années nous promène aux quatre coins de l'Afrique de l'Est. Et ces lions de Savoie, maintenant, bien sûr qu'on a raconté leur histoire, il s'agit de les protéger parce que le lion est aujourd'hui, après le rhinocéros, l'espèce à protéger en priorité en Afrique, victime de l'envahissement du milieu par l'homme et puis des conflits hommes-animaux. Remarquez, on n'a pas de leçon donnée aux Africains quand on voit qu'un malheureux loup dans la Meuse provoque une levée de boucliers et des écrits dont il vaut mieux rire que de se fâcher.
Merci beaucoup Michel Louis. Cédric me dit une petite pensée pour le mini-zoo de Blossac et celui des bois de Saint-Pierre qui ont dû bercer votre enfance, Poitevine. Il s'adresse à moi, oui c'est vrai, ô combien Cédric, si vous saviez. Je rappelle le titre du très bel ouvrage publié sur le zoo de Vincennes, le Parc zoologique de Paris, des origines à la rénovation, c'est magnifique. Et puis de Catherine Auder et Michel Pierre, l'exposition coloniale de 1931, c'est chez André Versailles, éditeur.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Marine. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1 et elle aimerait connaître la fonction des ministères régaliens et d'où provient cette appellation.
Oui, alors les ministères régaliens sont les grands ministères, les grands portefeuilles en charge des fonctions souveraines de l'État. Ministère, d'ailleurs, ça vient d'abord du latin ministerium, serviteur. Le ministre, c'est celui qui est au service de l'État ou de la collectivité. La spécialisation politique, c'est-à-dire l'attachement à un département en particulier, c'est au tournant du XVIIe siècle que ça apparaît. On ne parle pas de ministre à l'époque. Donc on parle de secrétaire d'État, ou plus exactement le titre c'est secrétaire d'État, mais on parle quand même de ministre. Alors, qu'est-ce que c'est que les ministères régaliens ? Bien, à l'origine, le mot régalien est un terme juridique qui désigne un droit considéré comme inhérent à la monarchie, du latin régalis, royal. Ce mot régalien a servi à désigner ce qui se rapportait à l'exercice de la souveraineté, ce qui appartenait au roi, c'est-à-dire la défense, les affaires étrangères, l'intérieur, la justice, bref, le noyau dur de l'État en quelque sorte. Je pense que lorsqu'on a dit ça, on ne peut pas en ajouter tellement plus. Hein. Ce sont donc des ministres qui s'occupent des grandes fonctions souveraines de l'État.